C'est qui le sauveur ? C'est bon ? On y va ?
Chers amis, j'ai une trop forte voix. Chers amis, je vous souhaite une cordiale bienvenue ce matin au nom de l'Église évangélique de Mérin. Et si vous venez pour la première fois, sachez que nous sommes très heureux de vous y accueillir. J'aimerais profiter de l'occasion d'avoir le micro pour remercier chaleureusement l'équipe de louanges et tous ceux qui sont à la sono et sans qui le culte ne serait pas ce qu'il est. Nous avons aujourd'hui un invité en la personne de Philippe Gola, pasteur au CEPOM, centre paroissial œcuménique de Mérin, et dans le cadre de nos échanges inter-église, il va nous dire quelques mots. Je lui laisse la parole et je reprendrai pour l'introduction.
Merci, bonjour. J'ai 25 minutes, c'est ça ?
Ouais.
Merci déjà de l'accueil. Je ne suis pas venu tout seul, on est quelques membres de la paroisse protestante à être venus vous rendre visite aujourd'hui. On s'est mis en marche depuis la cité pour venir jusqu'au village pour pouvoir célébrer avec vous ce matin. Et ce qu'on aimerait vous proposer, c'est de vous mettre en marche avec nous durant l'été, pour une série de cultes qu'on a dû interrompre pendant le Covid, les cultes en commun de l'été. Mais on peut reprendre cette tradition qui, je crois, pour la première fois dans les années 60, a été initiée. Donc oui, se mettre en marche, puisque ce sera notre thème, En marche avec Dieu. Vous avez les petits papillons à la sortie. Du 3 juillet au 21 août pour 8 cultes entre l'Église évangélique ici et puis la cité. À une exception près, lorsque le culte sera célébré ici, ce sera un prédicateur ou une prédicatrice réformée. Et lorsque le culte sera célébré au centre œcuménique, ce sera une prédicatrice ou un prédicateur évangélique qui célébrera ce culte-là. Mais dans tous les cas, nous sommes toutes et tous les bienvenus à l'ensemble de ces cultes. Alors évidemment, c'est à chaque fois et chaque été des cultes un peu étranges. Parce que même quand on célèbre ici dans l'Église évangélique, même si on a une équipe à chaque fois, ou presque une équipe de louanges évangéliques, il y a quand même une petite teinte réformée qui vient se glisser ici ou là. Après tout, voilà, les prédicateurs réformés, on a nos défauts, et puis on vient avec. Et puis de la même manière, quand c'est chez nous, eh bien, c'est un culte réformé avec quand même une petite teinte évangélique qui vient se glisser ici ou là. Donc C'est à la fois familier et étranger comme culte. Et on aimerait vous, j'aimerais vous encourager à oser explorer un petit peu cette étrangeté des cultes en commun, sachant que c'est juste pour l'été et puis qu'après, à partir du, à partir du 28 août, on pourra retrouver nos habitudes et le confort de cultes vraiment évangéliques ou vraiment réformés pour les uns et les autres. Et puis cet été, on ne veut pas seulement célébrer ensemble, mais également manger. À quelques occasions près, si la météo le permet, vous avez aussi sur le flyer 4 dates de grillades qui seront organisées juste ici, sur votre gauche ou ma droite. Donc voilà, nous sommes, chacune et chacun, les bienvenus pour ces cultes que je me réjouis de vivre avec vous toutes et tous. J'ai pas été trop long, ça va?
Non, c'est tout bon.
Parfait, merci.
Pour introduire donc ce culte et aller dans le sens de ce que Sylvain va nous présenter, j'aimerais partager avec vous une expérience qui m'est arrivée peu avant mon départ à la retraite en tant que prof de biologie. Effectivement, dans le collège où j'étais, il fallait une fois par semaine surveiller soit dans le bâtiment, soit à l'extérieur pendant les grandes récréations. Et j'étais dehors pour surveiller la récréation, et devant moi, à une vingtaine de mètres, un jeune, dos tourné, je ne voyais que son dos, était là en train de fumer. Une énorme fumée qui monte devant lui, et il n'avait pas le droit. En face de lui, il discutait avec un camarade qui me regardait. Et moi, je me suis approché gentiment de cet élève pour lui faire une remarque. Et l'élève qui me voyait a dit « Attention, ah !» Je ne donne pas son nom. « Attention, ah, Monsieur Rosset !» Et la cigarette a disparu totalement. Je ne sais pas du tout ce qu'il en a fait, s'il l'a avalée ou s'il l'a jetée. Et bien entendu, je me suis approché de lui. Je lui ai dit « Écoute, ah, tu sais très bien, tu m'accompagnes, on va au secrétariat, je suis obligé, tu fumes en dehors du collège, et s'est défendu. Non. Alors, j'ai juste tapé sur l'épaule pour lui dire, écoute, tu peux me regarder et tu me suis. On ne me touche pas. Et puis, j'ai dit, non, je ne veux pas te toucher, ce n'est pas moi qui vais te traîner, ce n'est pas possible. Et je lui ai dit simplement, tu te retournes. Il s'est retourné, il m'a envoyé un coup de poing dans la figure où je me suis écroulé par terre. Mais heureusement que je me suis écoulé par terre, parce que je crois que dans la rage, je leur ai rendu mes deux ou trois coups de poing. Dieu était là, il m'a fait tomber en arrière quelques secondes, j'ai saigné du nez énormément, j'ai juste eu le temps de mettre ma main, de lever la tête et de partir au secrétariat. Et bien entendu, lui continuait à venir vers moi pour me tabasser. Un ou deux de ses camarades l'ont serré, pour pas qu'il puisse venir jusque vers moi. Moi, j'ai continué au secrétariat, et en arrivant au secrétariat, j'ai dit, c'est A qui m'a tapé. Il m'a dit, ouh là 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 là. Et bien entendu, j'aimerais faire ressortir une ou deux choses de ce qui est arrivé. On m'a demandé de déposer plainte, mais je n'ai pas voulu déposer plainte contre lui pour respecter ce verset qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 4. Si je déposais plainte, l'élève était automatiquement exclu de l'école, sans aucune chance d'être entendu dans ses difficultés familiales catastrophiques. Mais humainement parlant, ma première réaction était de me dire que si je déposais plainte, je faisais valoir mes droits, je me valorisais aux yeux de mes collègues et je tenais ma vengeance. C'est dur de se faire tabasser devant tous ces élèves. Et toute la direction m'a vivement encouragé de déposer plainte. J'ai refusé de déposer plainte, c'est l'école qui l'a fait. Et Dieu m'a donné d'être en paix par rapport à ma décision. L'élève a été finalement envoyé en maison de redressement dans un autre canton, mais c'est la direction qui a pris cette décision. Je n'étais pas impliqué dans le processus. Je terminerai par la prière. Oui, Dieu est Père, nous pouvons nous adresser à toi sans cesse. En une fraction de seconde, tu nous réponds. Nous voulons vraiment, Seigneur, toi, tu es là au milieu de nous, te faire confiance, nous remettre à toi pour ce culte, pour que tu ouvres nos cœurs, que nous puissions te louer, te dire merci, Seigneur, parce qu'encore une fois sur cette terre, nous pouvons nous approcher de toi tous ensemble et te dire toutes nos reconnaissances. Nous te bénissons, nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus, Dieu et Père. Amen.
Jésus-Christ est Seigneur et pour nous, il s'est abaissé à devenir homme pour finir par remonter dans la gloire par ses résurrections. Je vais lire dans la Bible de Jérusalem, Isaïe 59, 9 à 12. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche, Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Et par lui, la volonté de Yahvé s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et il sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec les puissants. Il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Nous chantons « Christ est la lumière ». Je vais vous lire un texte de Marion Muller-Collard dans Éclat d'Évangile. Tu es le chemin, la vérité et la vie, car tout tient en l'amour que tu donnes. Tu ne l'agites pas au loin comme une récompense réservée à celui qui arriverait jusqu'à toi, mais tu le distribues pour nous donner l'élan. Tu le donnes comme un indice pour baliser nos routes, comme du pain pour assurer nos forces, comme des lanternes pour assurer nos pas. Tu ne nous donnes pas d'autre destination que de marcher sur les traces de ta présence. L'arrivée n'est plus un lointain horizon, car sur ce chemin, nous arrivons à toi dès le premier pas. Nous chantons « Jésus, je te suivrai ».
Je te suivrai. Oh, 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 oh.
Maintenant.
Aïe, aïe, il fait trop beau aujourd'hui, hein. Vous avez de la peine à vous calmer. Vous êtes bientôt dehors. Hein. Mais j'ai besoin de vous avant que vous sortiez. Alors que tous les enfants qui sont dans la salle viennent en avant, parce que le chant suivant, c'est pas les adultes qui vont le chanter, c'est vous. Hein. Avec les gestes. Alors, on va permettre aux adultes de faire quand même des gestes avec vous pour vous encourager. Mais on compte sur vous, d'accord.
Ça va, mais... Ah, voilà. Alors, on va chanter le prochain chant pour vous. Donc, vous restez tous assis debout. Selon le courant, mettez-vous debout. Hein? Et puis, c'est un chant qu'on a prévu exprès pour vous. Donc, si les adultes veulent vous accompagner, c'est volontiers, mais on compte sur vous. Et s'il y a encore des enfants dans la salle qui veulent venir devant aussi, qu'on soit le plus possible pour faire les gestes. D'accord? Ah oui, allez, viens aussi. Viens, Jérémy, on a besoin de toi aussi. Bravo. Voilà, alors malheureusement, je devrais faire les gestes, donc je vais poser le micro, mais comme vous serez en train de chanter, ça va aller. Alors avant que vous partiez, on va encore juste prier pour vous et pour vos moniteurs. Et Seigneur Jésus, on te remercie pour tous ces enfants et on te demande vraiment ta bénédiction sur les moniteurs, que tu les gardes aussi s'ils partent jouer dehors, que tu protèges tous ces enfants et tous les moniteurs et qu'ils soient vraiment dans ta main. Amen. Amen.
Alors, pour ce dernier chant, je vais vous lire de nouveau un texte de Marion Muller-Collard. Le Seigneur a besoin de te regarder droit dans les yeux et que tu supportes son regard, de découvrir en toi le refuge où tu gardes son amour, de savoir qu'à cette source, tu puises incessamment pour vivre et pour aimer. Le Seigneur a besoin de lire dans ta vie qu'il n'était pas tout à fait vain qu'il prenne ce risque immense de venir proclamer l'amour pour toute loi. On ne dit pas assez qu'il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nos joies, de nos révoltes, nos peines, nos amitiés, pour prolonger au cœur de nos vies humaines sa présence pleine. Nous allons chanter le J'aime 281 qui a été créé d'après le texte de Philippiens 2 que Sylvain va nous présenter. Jésus-Christ est Seigneur.
Le Je vais vous faire maintenant la lecture de Philippiens 2, versets 1 à 11, dans la version Tob. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
J'aimerais remettre Sylvain au Seigneur. Seigneur Jésus, effectivement, tu as demandé à Sylvain de nous donner un message. C'est ton message, Seigneur. Si Sylvain a préparé ce message, toi, tu vas diriger sa bouche pour qu'il puisse nous l'exprimer, que nos cœurs puissent être ouverts pour recevoir ton message, celui que tu veux nous apporter. Nous te remercions encore parce que, à travers ta Bible, nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, ce besoin, Seigneur, c'est que nos cœurs soient touchés, touchés par ton esprit. Amen.
Voilà, bonjour à chacun. C'est un plaisir d'avoir aussi ces visiteurs de la paroisse. Et quand j'ai pensé à ce texte et qu'on a réservé ce dimanche, je ne savais pas du tout qu'il y aurait ces visiteurs. C'est arrivé comme ça. Jésus-Christ est Seigneur. Et quoi dans la vie concrète? Et je trouve ce texte vraiment magnifique. Paul nous parle tout d'abord de manière très concrète des relations humaines dans la communauté, avec un accent sur l'unité, sur l'humilité, sur les rivalités qui existent. On a eu il n'y a pas très longtemps une prédication sur l'humilité. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, l'humilité, parce que dans mon enfance, j'ai sûrement eu pas mal d'injonctions à l'humilité. Okay. Et puis, on n'est pas très à l'aise avec ça, parce que finalement, on ne peut pas se forcer à être humble. Si on se force, c'est qu'on se met un masque d'humilité. Donc, voilà. Vous connaissez la boutade de celui qui disait « Pour l'humilité, il n'y en a pas deux comme moi. » Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, Paul met cet enseignement très pratique en lien direct avec le parcours de Jésus qui passe par la croix. Du coup, la croix prend un sens quelque part qui s'élargit ou qui se décale par rapport à ce que nous y voyons le plus souvent. Alors, si on vous dit qu'est-ce que signifie la croix, quelle est la première réponse qui vient? Je crois qu'on l'a dit ce matin. Jésus est mort pour nous, pour le pardon des péchés, pour l'expiation des péchés. Alors, c'est le sens. C'est un vrai sens de la croix. Il a été rappelé dans un texte d'Ésaïe ce matin. Je ne savais pas qu'il lirait ce texte. Mais le mot expiation, il faut reconnaître que ça ne dit pas grand-chose aujourd'hui aux gens. Dans des cultures où les gens font encore des sacrifices pour résoudre des problèmes ou pour que les dieux ou les esprits écoutent leurs prières, l'expiation, ça leur parle. Nous, pas beaucoup. Mais je crois que la croix, ça, c'est quelque chose de tellement fondamental dans l'Évangile que ça a un sens plus large que ça, plus multiple. Et ici, Paul fait de la croix, de ce parcours de Jésus-Christ, quelque chose qui détermine une manière de vivre ensemble en communauté. Ainsi, cette confession « Jésus-Christ est Seigneur », confession de foi centrale de l'Église, devient la marque de notre manière d'être. Du vivre ensemble, hein, on aime parler du vivre ensemble à Mérin. Alors ce matin, je vous propose de parcourir ce texte un peu à l'envers. D'une part parce que j'ai envie de commencer par la deuxième partie, qui est cet hymne à le parcours de Jésus-Christ qui passe par la croix et qui va à la gloire. Et puis à l'envers aussi, en commençant un petit peu par une réflexion d'ordre sociétal, pour terminer par un accent sur les relations personnelles, parce que je suis convaincu que le message fondamental de l'Évangile, il a quelque chose à dire non seulement pour nous et la communauté chrétienne, mais pour le monde, pour la société actuelle. Alors si on reprend ce texte, Jésus-Christ est de condition divine, il est Dieu de toute éternité. Il se dépouille, il prend la condition de serviteur. On a deux fois le mot condition. Hein. Il devient semblable aux hommes, il devient véritablement humain. Il s'abaisse jusqu'à la croix. Et sur une croix, c'est une mort qui est particulièrement honteuse, ignominieuse pour l'époque, particulièrement pour les Juifs. Et devient obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Alors, ce mot obéissance ici, pour moi, ce n'est pas la même chose que les enfants qui obéissent, ou des fois qui n'obéissent pas, hein, à leurs parents. Je ne sais pas s'ils obéissent plus souvent qu'ils désobéissent, mais ça, je demanderai aux plus jeunes que moi de me répondre. Cette obéissance de Jésus, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est cette fidélité, la fidélité sans faille de Jésus à cette vocation qui l'amène au milieu des humains jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Alors là, il y a une espèce de paradoxe. Et pour moi, ce paradoxe, il vient questionner notre image même de Dieu, notre image de ce que c'est qu'un Dieu puissant. Parfois, je ressens une certaine tension avec un certain nombre de nos chants qui célèbrent la puissance de Dieu, un petit peu comme si il n'y avait pas eu besoin de la croix. Comme si on oubliait que celui qui est déclaré Seigneur, qui est devant qui tout genou fléchira, c'est justement celui qui s'est fait serviteur. Et là, le message de la Bible, il est en fort contraste avec tout ce qui est les religions en général. Parce que c'est ce mouvement d'un Dieu qui s'abaisse et qui vient nous rejoindre dans notre réalité humaine. Et non pas des efforts que nous faisons, nous, pour atteindre Dieu, soit ces efforts pour essayer d'être comme Dieu, d'être puissant comme Dieu, soit simplement, moralement, d'essayer d'être meilleur. Ici, la situation est renversée. Ce n'est plus l'homme qui veut se faire Dieu, c'est Dieu qui se fait homme et qui révèle son vrai visage à travers la vie de service et de fidélité de Jésus-Christ. Alors je disais, on est un peu décalé par rapport au sens de la croix comme expiation du péché, mais peut-être pas tant que ça. Parce que le péché, c'est quoi à la base ? Au début de la Bible, au chapitre 3 de la Genèse, on nous raconte l'histoire d'un couple qui vit harmonieusement dans un jardin. Et puis, il y a un astucieux serpent qui sortit de nulle part et qui leur suggère que ce Dieu, c'est quelqu'un qui veut leur faire peur pour les maintenir en infériorité, quelque part. Comme des fois certains parents qui commencent à proférer des menaces pour faire peur à leurs enfants, mais après, ils tiennent pas trop leurs menaces. Bon. Et puis, avec cette suggestion, si vous mangez le fruit, vous serez comme des dieux. Alors, dans l'imagerie populaire, on a l'image d'une pomme et puis d'un péché qui serait quelque chose en rapport avec la sexualité. Mais dans le texte biblique, le fondement de ce péché, c'est la tentation d'être comme Dieu. Et c'est le début de la fin pour l'harmonie du jardin d'Éden. C'est l'arrivée de la violence, c'est l'arrivée de la domination de l'homme sur la femme, l'arrivée de l'exploitation du faible, la quête du pouvoir. Et puis ça se répète au travers des récits bibliques. Un peu plus loin, dans le chapitre 11 de la Genèse, on nous raconte que une population veut faire une tour qui monte jusqu'au ciel, c'est la tour de Papel. C'est un dangereux projet impérialiste. Et Dieu y met fin avec la bénédiction de la pluralité linguistique. Pas une malédiction, la pluralité. Puis le peuple juif lui-même, qui a vécu ce que c'est que d'être esclave d'un dictateur, après quelques temps dans leur pays, voilà qu'ils veulent un roi, pour être comme les autres. Dieu a beau les avertir que le roi, il va probablement les exploiter. Pas moyen, ils veulent leur roi, et Dieu à contre-cœur accepte de leur donner un roi. Puis on a vu aussi dans nos parcours sur le livre de Daniel combien déjà à cette époque, les empires puissants se mettaient à servir des gens, à déporter des populations, etc. Et puis Jésus lui-même, dans la tentation à laquelle il est confronté au début de son ministère, il fait face à cette même tentation. Il y a une triple tentation, mais la troisième après laquelle le diable renonce, c'est justement celle du pouvoir. Je te donnerai le pouvoir sur tous les peuples de la terre si tu m'adores. Et les disciples de Jésus, ils ont eu pas mal de difficultés à comprendre que ce n'était pas du tout ce type de pouvoir que Jésus aurait. Qu'il ne serait pas le sauveur qu'ils attendaient pour chasser l'occupant romain. Alors, il me semble que ce questionnement du pouvoir qui est au cœur de ce texte, il est très actuel dans notre société. On est en train d'assister, depuis quelque temps, à une folie dévastatrice d'une guerre menée par un homme qui n'a aucune considération pour la vie humaine, pas plus que n'en avait Staline, qu'il admire et qu'il essaye de remettre en valeur. Prêt à tout pour un rêve de grandeur perdu d'un empire. Si la situation est différente aujourd'hui de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même beaucoup d'analogies avec la folie de grandeur d'un Hitler il y a entre 70 et 80 ans. Mais notamment cela, c'est que si des dictateurs arrivent au pouvoir, c'est quand même parce qu'il y a suffisamment de gens pour admirer ce type de pouvoir. Et au temps d'Hitler, combien de chrétiens se sont laissés séduire? C'est une question. Alors, effectivement, en Russie aujourd'hui, il y a quand même pas mal de contestations, mais elle est très muselée. Mais en même temps, il y a les admirateurs. Et je vous raconte juste une anecdote, c'est que la mère d'une de mes belles-filles, pas la femme de Joël, mais l'autre, a vendu son appartement l'année dernière pour aller habiter avec la famille. Et c'est une Russe qui l'a acheté. Et cette dame lui disait... Poutine, c'est notre sauveur. Alors, je ne sais pas si elle le dirait encore aujourd'hui, c'était avant l'arrivée de la guerre. Mais c'est un anti-sauveur, ce n'est pas un sauveur. Mais cette admiration pour le pouvoir, pour moi, c'est en lien avec ce péché fondamental de l'humanité. Mais on n'est pas exempt de ce genre de tentation chez nous. Parce qu'il y en a d'autres formes. Il y a le pouvoir de la technologie qu'on peut admirer et qui est pas loin de ça. Une technologie qui nous apporte des bienfaits. Et quand on a des proches qui ont un cancer puis qui peuvent guérir parce qu'on a des moyens nouveaux, extraordinaires, on dit merci. Mais en même temps, on vit maintenant, on commence à voir de manière très claire les conséquences directes de cette espèce d'adoration de la technologie, de fuite en avant, avec un changement climatique. On le voit maintenant, mais il a commencé avec le début de l'ère industrielle, donc ce n'est pas tout à fait d'aujourd'hui. Et c'est urgent, il est urgent que l'humanité dans son ensemble apprenne un peu de modération et de sobriété. Il faut de la décroissance dans ce qui consomme des ressources non renouvelables, c'est certain. Alors, il n'est pas question de renoncer au progrès technologique, médical, etc., parce que je crois que ce progrès-là, il fait partie de notre mandat créationnel. Par contre, il doit être mis au service de l'humanité, au service des plus faibles, et non pas au service des plus... des puissances d'argent, des plus riches, etc. Il y a toute une réorientation qui est nécessaire. Et une question encore, dans nos livres d'histoire, on admire qui ? Souvent, on raconte l'histoire des rois, des empereurs, de ceux qui ont gagné des guerres. On nous parle d'un certain Alexandre le Grand. Je ne sais plus quel siècle c'était, mais en quoi est-ce qu'il était grand ? La Bible aussi, elle nous raconte des tas d'histoires de rois, d'empereurs, de guerres, mais elle nous raconte beaucoup d'histoires de petites gens, des gens qui étaient exploités, des gens qui étaient ordinaires. Et puis, il n'y a pas que des rois, il y a des prophètes. Il y a des prophètes qui sans cesse sont en train de critiquer ces rois qui exploitent les autres. Donc le message historique de la Bible, il est très différent de la couleur de nos livres d'histoire. Peut-être qu'on devrait les réviser aussi. Je m'arrête là, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient être évoquées. Pour revenir maintenant au début de notre passage. Vous savez, Paul écrit à une église avec laquelle il a des liens très proches, très affectueux, quelque part. Il a des relations très chaleureuses, presque intimes. Il est en prison quand il écrit cet épître. C'est une église dont il a reçu des dons, donc il en est question aussi dans cette lettre. C'est la seule, d'ailleurs, de laquelle il a accepté des dons. Il a aussi entendu qu'il y a certains petits problèmes dans cette église. En particulier, il parle d'une mésentente entre deux femmes qui ont été des proches collaboratrices de Paul. Puis, d'ailleurs, en lisant, pour tout vous dire, en lisant les épîtres, on a l'impression que s'il n'y avait pas eu de conflit dans les églises des premiers temps, il n'y aurait peut-être que la moitié des épîtres qui resteraient, mais bon. Voilà. Et Paul commence avec une certaine insistance. S'il y a un appel en Christ, s'il y a un encouragement dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, c'est un langage presque trinitaire, hein, le Christ, l'amour du Père et l'Esprit. Autrement dit, si vous êtes vraiment disciple de Christ, hein, alors vivez en plein accord. Ou mettez-vous d'accord, comme c'est mis en français courant, parce qu'effectivement, Paul le dit parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se prie aussi. Mais encore attention à la manière dont on prie quand on est en conflit. Parce qu'il y a une manière de prier qui est une fuite pour ne pas avoir besoin de dire les choses. Alors ça, ça n'aide pas. Par contre, il y a une manière de prier où on voit les choses autrement, parce qu'on regarde à Dieu et au Christ. Mais effectivement, ça se travaille. Et il dit un même amour, un même cœur, et rechercher l'unité. Là, encore une fois, c'est une unité qui ne tombe pas du ciel. Ça m'est arrivé d'entendre des gens qui disent « Il suffit que tout le monde se centre sur le Christ, puis on sera tous unis. » Ce n'est pas aussi simple que ça. L'unité vient de Jésus et de l'Esprit, mais c'est aussi un chemin qui se travaille. D'ailleurs, c'est aussi vrai dans la famille, dans le couple. Et à mon sens, c'est une unité qui dépasse le cadre de la communauté locale. Parce que ça nous interpelle également dans notre cheminement œcuménique qu'on vit ici, qui est une donnée essentielle de notre témoignage. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'est jamais question d'une pluralité d'églises dans un lieu. Cette pluralité, elle est là. C'est à la fois un handicap et une richesse. C'est un héritage d'une histoire. Mais dans le Nouveau Testament, il n'en est pas question. Et on voit que Paul, qui fait beaucoup de voyages pour annoncer l'Évangile, il passe la moitié de son temps à créer des liens entre les églises, donc à travailler à cette unité des Églises. Et puis rien par rivalité, rien par gloriole, nous dit Paul. Il me semble que la société où on vit, elle est pas mal marquée par la rivalité, la recherche de la notoriété. Peut-être davantage maintenant à cause des réseaux sociaux qui poussent beaucoup cette chose-là. Je n'ai pas de thermomètre pour mesurer si c'était mieux avant. Hein. Bon, voilà. Mais cette rivalité ou la recherche la gloriole, elle peut se cacher un peu partout hein, dans notre service d'église. On a cette tentation dès qu'on est devant les autres, hein, qu'on soit au chant, au piano ou au micro. Hein, c'est... Voilà. Mais avec humilité, dit Paul, considérez les autres comme supérieurs à vous. Puis ça, c'est un petit peu le cœur de cette humilité dont parle Paul. Mais ça veut dire quoi ? Alors, j'aimerais dire ce que ça ne veut pas dire, d'abord. Ça ne veut pas dire « considérez-vous comme inférieur ». Ben, ce n'est pas de l'arithmétique. Ce n'est pas de l'arithmétique d'une classe hein, où il y a les premiers de classe et les derniers. Parce que ça serait une fausse humilité. Il ne s'agit pas de s'abaisser. Si je sais que je suis aimé de Dieu, que je suis pardonné, que je suis reconnu, eh bien, je peux voir toute la valeur de l'autre sans me sentir menacé. Donc, l'autre supérieur à moi, ça veut dire que je peux reconnaître que l'autre m'est supérieur parce qu'il a des dons que je n'ai pas. Qui que ce soit, la plus humble des personnes, elle a des dons que je n'ai pas. Elle sait faire des choses que je ne sais pas faire. Elle voit des choses que je ne vois pas. Donc, j'ai toujours quelque chose à apprendre de l'autre, qui que ce soit. Ainsi, dans notre vie communautaire, mais aussi dans la famille, aussi avec les collègues de travail, aussi avec nos élèves quand on est prof, on peut ainsi mettre en valeur chacun. Et un prof, il peut apprendre de ses élèves, hein, c'est, voilà. Sur cette mise en valeur, j'avais envie de vous raconter une anecdote parce que j'ai eu deux élèves frères et sœurs dans deux classes différentes. J'avais une Vietnamienne, Phuong Lan, qui était... Elle avait un peu de peine en maths, mais voilà, elle était très gentille. Et puis, elle a un frère que j'ai eu 2 ans après dans une autre classe qui, lui, était super doué, surtout en physique. Il a même été... dans un concours international, je crois, où il était envoyé par l'école pour participer à ce concours de physique. Et puis une sortie, enfin, de plusieurs jours qu'on a eu avec les élèves, j'ai eu l'occasion de discuter avec la grande sœur. Puis je me suis rendu compte que elle vivait quelque chose d'assez difficile. Par rapport à son frère, parce que c'est pour ses parents, ce frère qui était si, si fort en physique, il était mis en valeur, puis elle se sentait dévalorisée. Mais en fait, elle avait plein de qualités. On était à table, j'ai vu comme elle dessinait, c'était génial comme elle arrivait à dessiner quelqu'un de ressemblant en 3 coups de crayon. Et puis elle avait un sens littéraire, voilà. Alors elle avait un peu de mal dans mes cours de maths, bon, mais elle avait d'autres qualités. Donc c'est un exemple pour montrer que chacun a ses qualités et qu'on peut aider les autres à les découvrir et à sentir leur valeur. Et c'est toujours une question, hein, dans l'enseignement, comment est-ce qu'on vise l'excellence de la classe, de tous, des meilleurs, que tout le monde puisse apprendre plus de choses et se développer sans dévaloriser ceux qui ont plus de peine. Mais c'est tout un chemin qui est là dans ce, considérez les autres comme au-dessus de vous-même. Et que chacun regarde aux autres, et pas seulement à lui-même, ou regarde les intérêts des autres. Et ce chacun dans le texte, c'est aussi un pluriel. Donc ce n'est pas seulement une question d'individus, c'est aussi des questions des groupes dans l'Église. Et souvent, on a ceux qui aiment telle sorte de choses, ceux qui aiment telle sorte de choses, ceux qui sont plus charismatiques ou qui n'aiment pas cette couleur. Voilà, il y a... Et puis, ça s'applique aussi à nos relations inter-Église, dont Philippe Gola nous a parlé, non sans un certain humour, tout à l'heure. Voilà. Alors, comment est-ce que je réagis quand j'aime pas trop les chants? Bon. Cette question, elle s'adresse à moi, hein, parce que des fois, j'ai facilement intolérant. Moi, bon. Ou bien quand la prédication ne me convient pas. Je pourrais aussi me demander si peut-être ça ne m'a pas parlé, mais ça a été un encouragement pour d'autres. Si tel culte m'a rien apporté, peut-être que ma présence a pu encourager quelqu'un. Peut-être par une simple salutation, par un sourire, des fois même sans que je le sache. Et on peut tous apprendre les uns des autres, y compris, et je dirais presque même surtout, dans nos relations plus larges qu'on va vivre cet été. Alors pour conclure, moi je suis très reconnaissant de la communauté de Mérin, hein. Je ne veux pas prendre ça comme une critique, je suis très reconnaissant de ce qu'on vit de très fraternel ici. Mais c'est un chemin. Et pour suivre ce chemin, je vous laisse trois questions pour notre vie d'église, mais ça marche dans la famille, au boulot, partout. À la lumière de Jésus, inspirée par son esprit, qu'est-ce que j'admire ou qui est-ce que j'admire? Première question. La deuxième, qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre? Pas seulement de celui que j'admire, mais aussi de celui que j'apprécie moyennement. Bon, voilà. Et puis, comment est-ce que je peux mettre en valeur l'autre? Voilà, avec ces trois questions, que l'amour de Dieu nous conduise sur ce chemin.
Avant de prendre la scène ensemble, nous voulons par ce dernier chant nous réunir autour de celui qui nous fait vivre. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Chantons à l'agneau de Dieu.
cesse de chanter.
À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les pères toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire.
Alors, pendant ce temps de distribution de la scène, on aura un temps de prière libre. Donc, Jacques prendra le micro. Sentez-vous libre de juste lever la main et on viendra vous passer le micro. Et pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la distribution de la scène à l'église de Mérin, je vous rappelle que les petits gobelets roses au centre contiennent du jus de raisin et pas du vin.
Pendant que la scène se distribue, j'aimerais juste lire un verset qu'on connaît très bien. Dans Matthieu 26, « Et comme il mangeait, Jésus, ayant pris le pain, ayant béni, le rompit et le leur donna aux disciples et dit, « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Et ayant pris la coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, disant, « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés.
Je commencerai par la prière et puis après je passerai
vers chacun. Seigneur, c'est vrai que nous voulons pendant cette distribution de la scène, c'est toi Seigneur qui nous a préparé ce repas, qui nous a demandé, c'est peut-être la dernière fois que nous le prenons, car tu vas bientôt venir. Alors nous voulons vraiment encore en ces moments pouvoir te louer, t'adorer par nos prières. Amen.
Cher Seigneur, ensemble, nous te remercions pour l'expiation de nos péchés, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, l'accueil inconditionnel et si gracieux de notre Père. Et puis en même temps, nous mesurons que tu es source d'inspiration pour nos relations les uns avec les autres, pour notre présence au monde. Et nous sommes conscients que Nous sommes bien imparfaits encore dans ce domaine-là. Aussi, nous voulons te demander les ressources de ton esprit, de ta grâce, pour marcher de progrès en progrès et incarner quelque chose de la beauté, de la noblesse de l'Évangile. Amen.
Oui, Seigneur, ce que je veux admirer chez toi, c'est ta puissance, mais la puissance que tu utilises pour résister au mal, par le bien. Et aide-moi à avoir cette force de caractère que tu as eue pour résister même à la croix, résister aux tentations du diable. Aide-moi à avoir cette même puissance pour résister pour ne pas rendre le mal pour le mal, mais rendre le bien pour le mal. Merci parce que ton esprit veut agir en nous pour cela. Amen.
Vivre ce texte, Seigneur, entendre tout ce que tu nous as dit ce matin, quelque part, que ce soit individuellement ou en communauté, c'est impossible. Cependant, c'est sur toi que nous voulons nous appuyer. Tu nous appelles à continuer le chemin, les yeux fixés sur Christ, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il nous a montré, dans tout ce qu'il nous a appris. Alors, Seigneur, tu veux m'aider, tu veux nous aider sur le chemin que toi, tu traces devant nous, à vivre selon ce que tu désires. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, parce que nous savons que tu es là, à côté de nous, que tu chemines, que tu nous relèves, que tu nous remets en avant. Sois loué, adoré au Dieu, car tu n'es pas resté tout seul, et même dans ton ciel aujourd'hui, tu pries encore pour nous. Sois loué et adoré parce que tu ne nous oublies pas. En Jésus-Christ, amen.
Bénissez et ne maudissez pas.
Nous voulons vraiment te remettre notre vie entre tes mains. C'est vrai que ce n'est pas facile à marcher sur ce chemin. C'est difficile, mais avec toi, Seigneur, tu nous tiens par la main et nous n'avons aucune crainte. Nous voulons te remercier pour tout ce qui nous a été dit, que nous puissions vraiment nous plonger dans tes Écritures pour avancer, pour progresser. Nous te bénissons, nous t'adorons. Amen.
Alors, on compte comme d'habitude sur Joanne pour les annonces.
Bonjour. Vous allez bien? Anne, ça va? Je vais sourire cette fois-ci. Pour toi. Bon. Je ne sais pas trop ce que j'ai à dire, mais je crois que c'est difficile de prendre le micro après ce qu'on a entendu. Parce que... voilà. Dans ma famille, c'était tellement maladif le fait de penser à l'autre que quand on coupait un gâteau, on n'osait pas prendre la dernière tranche pour toujours la laisser à quelqu'un d'autre. Donc il y avait toujours des restes. Alors pour les annonces, c'est comme le but de ce petit message. Je vais laisser la parole aux autres principalement. Je vais faire deux annonces. Donc mardi, les ateliers bibliques avec Célina sur Daniel 11. Samedi prochain, nous avons décidé avec le conseil de prendre un temps de réflexion, de prière aussi. Donc samedi 18 juin, vous pouvez penser à nous, prier pour nous, pour que ça puisse un petit peu émulsionner dans nos esprits. Et puis ensuite, je vais laisser la parole à Maïka pour le CTT. Et puis après, j'ai la liste continue avec André et puis Michel, c'est bien, c'est comme les départs en vacances, il y a les embouteillages.
Bonjour. Alors, le groupe de jeunes revient avec ses tresses qu'on n'a pas pu faire, enfin, qu'on a fait différemment l'année dernière, mais qu'on va pouvoir faire avec le petit déjeuner. Ce sera dimanche prochain. Donc, le petit déjeuner à partir de 8h30 jusqu'à environ 9h30 sera offert. Donc, il y aura tresses, café, thé, confiture, tout ce qui vient avec. Donc, on vous invite à venir, on sera là pour vous servir et c'est un moment très convivial qui est vraiment chouette à passer. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent, c'est vraiment des chouettes moments et les tresses sont très bonnes. Donc, on fera les tresses ici à l'église samedi, donc les jeunes sont au courant, on a besoin d'eux à partir de 14h. Et si vous avez des jeunes qui sont motivés à venir aussi, n'hésitez pas. Et donc il y a une liste où vous pouvez vous inscrire. Donc pour le petit déjeuner, si vous voulez venir avec des gens, nous dire le nombre de personnes qui viennent, et si vous voulez emporter des tresses avec vous après le culte, on aura les tresses à l'emporter. Donc le prix est libre, c'est pour soutenir notre camp de ski, pour qu'on puisse justement l'offrir à prix raisonnable pour nos jeunes. Donc on apprécie tout votre soutien pour ça. Et, il y a aussi un lien d'inscription qui va passer avec un actumère. Hein, donc, si jamais vous allez nous regarder en ligne ou vous n'avez pas le temps de vous inscrire, ben, il y a aussi un lien qui va passer. Donc, voilà. Merci beaucoup et bonne semaine. La deuxième annonce. Pour le camp de ski aussi, parce qu'on cherche des cuisiniers pour le camp de ski. Donc si vous êtes motivés, intéressés, ce sera du 27 décembre au 3 janvier de cette année. On cherche des cuisiniers ou aides-cuisiniers si vous êtes motivés. En général, on a besoin d'une équipe de 4 personnes. Donc voilà, si vous connaissez des gens, si vous êtes chaud, on apprécie. Merci.
Alors André, pour les dimanches invitations réciproques.
Le dimanche des rencontres. Alors, merci à Sylvain de nous avoir sollicité à se connaître, à s'humilier, à s'apprendre à se connaître. Alors, ce dimanche du 26 est fait pour ça. Exactement, c'est l'occasion de faire connaissance avec des familles, des personnes, des couples qu'on ne connaît pas. Ce sont des invitations qui se font, vous inscrivez pour... participer à un repas ou pour accueillir des gens. Vous pouvez, si vous ne savez pas dans quelle catégorie vous mettre, et ben vous remplissez le talon des bulletins d'inscription pour les deux parties. Et puis le groupe qui s'occupe de ces dimanches s'occupera de ventiler les gens de façon à ce qu'on fasse un dimanche un peu des surprises ou un dimanche des découvertes les uns des autres. C'est des repas simples, puisqu'on est censé faire le repas après le culte. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des petits plats dans les grands. Mais que chacun se sente invité ou invité à accueillir. Les bulletins d'inscription sont au fond, ou bien vous avez tout reçu ça par Internet. Le délai d'inscription, c'était aujourd'hui. On va le prolonger de quelques jours. Merci.
Si jamais j'ai des bonnes recettes pour ceux qui ont des fours programmables, vous pouvez faire des très bons repas en préparant avant. Michel, je te laisse la parole.
Notre four n'est pas programmable. Voilà, alors moi je viens devant vous pour développer un petit peu l'information qui a été donnée par Joanne dimanche passé, sauf erreur, qui est le passage du BVR au BVQR, qui aura lieu, dernier délai, le 30 septembre pour les BVR, introduction irrémédiable du BVQR, le 1er octobre 2022. Voilà, alors ça va modifier pour certaines personnes la façon dont vous procédez. Il y a trois possibilités. Si vous avez programmé un ordre permanent, il faut vérifier que votre ordre permanent repose sur l'IBAN de l'Église et pas, peut-être s'il date de longtemps, sur le numéro de compte de chèque postal. Donc, pour les ordres permanents, vérifiez que vous utilisez bien l'IBAN. Si vous utilisez un e-banking ou une app bancaire, il n'y a pas de problème, vous scannez le code QR, vous complétez, ça roule tout seul. La troisième possibilité, c'est si vous payez au guichet de la poste ou si vous utilisez un ordre de paiement à la banque dans lequel vous glissez le récépissé dans l'enveloppe. Là, vous avez besoin d'un BVQR qui se sépare, qui est détachable, de manière à avoir la partie paiement et la partie récépissé. Ce type-là, vous en avez déjà au fond de la salle ainsi qu'à l'entrée à côté de la porte d'entrée dans le présentoir qui est sur la droite. Attention, avec le BVQR, il n'y a plus de possibilité de mettre de communication. Comme avant, on pouvait mettre don pour le week-end ou je sais pas, ou culte du. Voilà, ça c'est plus possible. Et puis, si vous les remplissez entièrement à la main et qu'ils ont un peu de peine à le lire, je crois. Il y aura une très forte augmentation des frais au moment où vous allez à la poste pour la saisie. Donc si vous faites régulièrement des dons et que vous voulez continuer à les payer à la poste, il faut venir me voir et on fera des BVQR qui vous seront personnels, qui auront votre nom pré-imprimé, de manière à ce que votre nom figure dans le QR code déjà. Ça, c'est une des solutions. Évidemment, si vous pouvez passer à une des autres solutions, e-banking ou autre, c'est encore mieux. Je veux juste encore dire deux mots sur la situation financière. Hein. Notre Église, elle repose entièrement sur les dons que vous faites. On a un objectif, donc un budget de 310 000 francs par année, un objectif mensuel de 25 800 francs. Vous voyez qu'on a en bas, là, j'ai mis le delta au budget. Il manquait 4 200 francs, ce qui est remarquable. C'est extrêmement peu par rapport à la cible qu'on a. C'était réparti, reviens voir en arrière, on va juste montrer encore un truc. C'est réparti là entre offrandes. Offrandes, c'est ce que vous donnez lors du culte ou ce qui est fait par Twint. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas traçables. C'est totalement anonyme. Les dons, c'est ce qui vient sur le CCP et en général, enfin toujours, ça déclenche une attestation fiscale. Voilà. Ensuite, c'est très bien de donner, mais à quoi ça sert? Hop là. À quoi ça sert? Voilà, l'utilisation des dons selon le budget de 310 000. Donc il y a à peu près 60%, c'est tout ce qui tourne autour des salaires, des charges sociales et des frais de ministère. On a une toute petite part de frais administratifs. 4% c'est les activités de l'Église, c'est quand on paye, je sais pas, par exemple les licences pour projeter les chants, voilà, ça c'est dans l'activité de l'Église, le pain et le vin, voilà, ce genre de choses, le soutien pour des camps de formation pour le groupe de jeunes. Ensuite, on a une petite part qui est activités rejoindre et chantier 21-22. Ça, c'est des activités où on vise l'extérieur de l'Église. Le projet rejoindre, c'est rejoindre les gens qui sont autour de nous. Et chantier, c'est la construction de la communauté. 3% pour le soutien des actions sociales et les actions ponctuelles. On a un fonds social et puis on a la possibilité pour le conseil de donner pour des objectifs déterminés qu'il juge importants. 15% c'est des charges bâtiments et puis 16% c'est le soutien à notre fédération, en fait notre cotisation à la fédération. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Un grand merci pour votre libéralité, qui est bien pour faire marcher le bâtiment, pour payer les pasteurs, etc., mais qui est premièrement pour l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Et pour terminer... Voilà. Tu peux sortir... La corbeille est passée, dit la dame à son mari, et vous comprenez pourquoi on a mis des chaises. Si vous avez des questions par rapport à l'utilisation du BVQR, je suis à disposition. Si vous avez des commentaires sur mon humour déplacé également.
Encore deux points. Je ne sais pas si Claude Panigoni est là. Non, pour vous rappeler que l'Église évangélique participe à Merin-les-Bains qui se tiendra le vendredi 15 juillet pour l'Église où on tient un stand. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir Claude Panigoni. Comme il n'est pas là aujourd'hui, vous pouvez toujours vous référer à un pasteur ou un membre du conseil. Et puis, bien sûr, après le culte, un moment... convivial pour un café ou un sirop, si vous préférez, peut-être un café à 11h30, vous préférez autre chose. Merci.
Les pasteurs sont à disposition après le culte et en semaine, comme toujours.
Alors, je ne voulais pas le dire parce que je vois qu'il y a une pasteur qui est en bas qui s'occupe des enfants, donc c'est très bien, et puis un pasteur qui s'est mis en retrait parce qu'il a aussi le droit à des jours de congé, donc je ne l'ai volontairement pas dit. Je vois que je suis surveillé en fait.
Bon, je vous propose de vous lever, je lirai quelques versets de cette même épître aux Philippiens, cette même lettre que Paul écrit à l'église de Philippe. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Bonne semaine à tous. Merci.